Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Romain Villard, un ancien commando marine des forces spéciales qui va nous raconter des anecdotes de mission, notamment une où il a failli perdre la vie en Afghanistan, sauvé par son chef au dernier moment, c'est exceptionnel. Et juste, je voulais remercier notre sponsor pour cette émission, c'est World of Warships, qui est le jeu de référence de navires de guerre, qui est gratuit, qui est dispo sur console, sur PC aussi. Louis, je vois que c'est plus cadré.
Hein ?
Oh, pardon. Tu cadres plus.
Excuse-moi Guillaume, c'est juste que je suis sur des vidéos justement de World of Warships, le jeu, et le jeu a l'air incroyable. Tu peux piloter des avions, tu peux piloter des porte-avions. Il y a même, là je suis en train de regarder quelqu'un qui est dans un sous-marin et qui torpille un autre sous-marin.
Ok, tu veux faire la sponde sur ma place peut-être sinon?
Eh bah, puisque tu le proposes, allez.
Eh bah vas-y, viens, pas de problème, on va voir.
C'est, le texte est là?
Ouais.
Le jeu est hyper complet, vous avez le choix parmi plus de 500 navires que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez jouer, il y a plusieurs modes, vous pouvez jouer entre amis, vous pouvez jouer seul. Et on vous met le lien dans la description si vous voulez le télécharger. Encore une fois, c'est un jeu gratuit. Et pour ceux qui n'ont jamais joué, vous avez un pack de bienvenue d'une valeur de 25 euros offert avec le code qui s'affiche à l'écran. Et Guillaume, tu cadres plus là ?
Si, si, j'y vais. Franchement, je vais faire un super cadrage comme toi. Regarde, vas-y, souris. Allez, c'est parti. Et t'as oublié de dire Romain Villard, le commando marine, c'est parti, tout ça.
Eh bien, c'est parti pour l'émission de Romain Villard, le commando marine.
Sur
Légende.
Parfait.
Je m'appelle Romain Villard, ancien commando marine, blessé en opération en Afghanistan en 2005. J'ai été sauvé par. Mon chef de groupe qui est venu me chercher, voilà.
Eh ben voilà, bienvenue Romain. Bienvenue en direct du Sud-Ouest, toi, tu habites hein, maintenant, tu fais du vin.
Exactement, oui.
On va parler du vin après et on va parler de toute ta carrière, etc. Mission, il a failli rester attaqué par 150 talibans au RPG, t'es laissé pour mort, on te prend tout et en fait finalement ton chef revient au dernier moment de chercher.
C'est ça.
Un peu comme un film américain finalement.
Oui, c'est un peu semblable, on va dire.
C'est un peu une scène de film américain.
Oui,
t'étais exactement commando marine, c'est
oui.
Ça. Donc force spéciale.
Oui, absolument.
T'es rentré là-bas, tu vas nous raconter tout ça. Et tu bosses pour du vin aujourd'hui. On va en parler pour l'association Les Bleuets de France, voilà, qui aide les blessés de guerre, c'est ça, non ?
Blessés de guerre, pupilles de la nation,
pupilles de la nation.
Victimes d'actes de terrorisme.
Et tu fais une cuvée, la cuvée 44, on va en parler après aussi, mais je vous mets la photo qui s'affiche à l'écran, qui est disponible sur leur magasin en ligne. Il y a 50 centimes qui repart à chaque fois pour les bleuets. Il y a, en plus, c'est vraiment du vin qui est très bon et qui n'est pas très cher. Et donc, vous pouvez aller le chercher avec un lien cliquable sous la vidéo. Ceux qui ont envie d'aller se commander une bouteille de vin au lieu de la commander ailleurs, bah, au moins, ça donnera 50 centimes pour une association qui aide les anciens militaires et les pupilles de la nation, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Tu vas nous en parler après. C'est toi qui nous as écrit pour venir ?
C'est mon frère.
C'est vrai ?
C'est mon frère qui connaît naturellement mon histoire, qui je crois, t'a contacté, t'a envoyé...
Un mail ?
Un texto ou un mail, je crois, via Instagram, ouais.
En message privé sur Instagram, alors.
Exactement,
vous pouvez le faire, ouais. Mais c'est mieux par mail sur contact@legendegroupe.fr.
Oui.
Si vous voulez venir, vous m'envoyez un petit mail, 4-5 lignes explicatives avec juste un numéro de téléphone, voilà, sur cette adresse-là, contact@legendegroupe.fr, et vous êtes les bienvenus, et la preuve que ça fonctionne. Hein.
Absolument, absolument. Moi, j'avais bien trop de modestie, en fait, pour parler de moi au départ, et puis finalement, il m'a convaincu, et puis les équipes m'ont aussi convaincu à venir ici et parler de moi.
Parce que tu n'avais jamais fait d'interview ?
Jamais.
C'est ta première ?
C'est ma première, oui.
Ah, waouh !
C'est ma première, une découverte.
Ouais. Ça fait un peu peur au début, mais c'est ce que je te disais avant, vous sachiez, c'est toujours les 3 premières minutes de l'interview qui sont difficiles pour beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude, et puis après, en vrai, c'est une discussion normale, et puis regarde, on n'est pas beaucoup, et après, tu apprends. Au début, tu es un peu comme ça dans ton fauteuil, un peu écrasé. Et après, tu vas parler naturellement et comme dans la vie de tous les jours, quoi. On va reprendre ton histoire et, qui est folle et surtout, bah, tu vas nous raconter cette histoire qui t'est arrivée, cette anecdote, ce moment de guerre. Et pour reprendre ta carrière, toi, t'es né en 83 à Bourg-en-Bresse, à côté de Lyon.
Oui.
Fin 2002, tu t'engages dans l'armée, tu vas à Brest pour faire l'école, les sous-officiers de la marine. C'est toi qui choisis la marine ?
Oui, je choisis la marine. En fait, j'ai un grand-père qui, à l'époque, m'avait parlé de, bah, des commandos. En fait, il appartenait aux troupes du général Leclerc qui ont débarqué en juillet 1944 sur les plages, et il avait rencontré les 177 commandos en Angleterre, français, qui ont débarqué le 6 juin, aux côtés des Américains, des Canadiens et des Britanniques. Et en fait, j'ai ce souvenir d'enfant où il me disait « ce sont les meilleurs et il faut aller là-dedans ». Et un jour, j'ai 14 ans, on habite, du coup, on déménage du côté de Nantes, à Cholet, et je vois sur une plage, à Saint-Jean-de-Mont, très exactement, quelqu'un qui a un t-shirt vert et c'est écrit en gros commando marine. Et je me retourne, je vois mes parents, je dis c'est ça que je veux faire. Donc l'histoire, elle commence là.
Ah, comment... c'est marrant, le hasard en fait un peu.
Ouais, c'est un peu le hasard, mais un peu nourri aussi avec ces dialogues et ces discours de famille. Ouais.
Tu te fais des amis pendant la formation en début 2003.
Ouais, très, très rapidement en fait, on est dans la section, c'est la section 21. Je suis donc à l'école de Mestrance. Et on est partagé, en fait, la section est partagée entre des détecteurs anti-sous-marins et des candidats à être fusiliers marins. Et je me fais très rapidement ami avec une personne, une personnel féminin, qui veut faire détecteur anti-sous-marin et qui a son petit copain qui est commando. Voilà. Donc,
Et qui t'en dit du bien ?
Et qui me dit du bien, et puis et j'ai hâte, en fait, j'ai ce rêve et j'ai hâte de le rencontrer, et chose qui sera faite à la fin du cours où je rencontrerai cette fameuse personne lors de ma remise de cette cérémonie de l'école des sous-officiers. J'aurai la chance de rencontrer Jonathan Lefort.
Oui. Jonathan Lefort qui décède quelques années plus tard.
Oui, en Capissa. C'est quelqu'un qui m'a suivi, en fait, pendant tout mon cursus, entre guillemets, à partir du moment où je suis rentré en formation fusilier marin. Bah, il m'a suivi, on s'était liés aussi d'amitié. Et donc il m'a suivi jusqu'à ce que j'accède au stage commando et que je devienne commando. Et après, bah, on s'est suivi et on s'est retrouvés notamment en 2005 en Afghanistan ensemble. Ouais.
Parce qu'il y a vraiment un vrai risque quand on est commando marine, c'est ça en fait.
Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui, les forces sont déployées de partout dans le monde face aux différentes menaces terroristes et autres. En 2005, lorsque je pars en Afghanistan, ça fait déjà 3-4 ans que les FS sont en Afghanistan. Je crois que la ARES 1, c'est 2002. Et en fait, on commence, entre guillemets, dans des opérations militaires assez précises et... chose qu'avaient moins vécu les générations précédentes, oui.
Et tu vas faire le stage commando, donc Jonathan te motive. Donc septembre 2003, stage commando, ça dure combien de temps ?
Alors, juste avant, il y a les évaluations. Les évaluations durent 2 semaines, en fait. C'est là où il y a le plus gros de la sélection. On ne dort pas, on ne mange pas, on fait énormément d'activité physique. Bon, il s'avère en plus que je le fais en décembre, donc ces évaluations en décembre à Lorient, il fait bon, il fait doux. Et on est en permanence mouillé, les instructeurs nous mettent vraiment dans des conditions, je dirais, de difficultés majeures pour tester notre résistance, pour voir si physiquement aussi on répond à ce qu'ils souhaitent, et aussi psychologiquement, si on a vraiment cet esprit qu'on recherche d'un commando marine. Donc je fais ces 2 semaines d'évaluation, et puis pour accéder au stage, j'avais 3 mois à attendre, parce qu'il y avait une autre évaluation, en fait il y avait à peu près 200 candidats, donc deux phases d'évaluation de 100 candidats pour au final récupérer environ une quinzaine de personnes au stage. Donc,
ah ouais.
Une sélection très drastique, ouais.
Donc toi t'es pris ?
J'ai la chance d'être pris, ouais.
Et début 2004, il y a une photo, voilà, remise du béret vert. Tu dis officiellement commando marine, commando de Montfort, groupe numéro 1, t'es second maître au départ. Vous partez direct en opération ou vous entraînez un peu avant quand même, j'imagine ?
Oui, on s'entraîne. Bah, moi, c'est la découverte. Je rentre dans un groupe avec des gens qui ont plus ou moins d'ancienneté, hein, des gens qui ont un an et d'autres qui en ont 10, 15, 20. Et donc là, pendant toute cette période de stage, on commence à s'entraîner, on a des mécanismes, on s'entraîne déjà à ce que sera au futur le métier. Puis quand on arrive en commando, bah là on commence vraiment à s'entraîner pour le combat. Voilà.
Et t'as Momo, ton chef de groupe, tu t'écris comme très exigeant au combat, dur à l'entraînement, hyper relou, enfin, c'était quelqu'un de très dur.
Très dur, très exigeant. Exigeant avec les hommes qui commandent et exigeant avec lui-même. À l'époque, voilà, il ne se passe pas une semaine sans qu'on passe 3 à 4 jours sur le terrain. Donc il y a des exercices qui sont prévus de grande envergure où on fait des déplacements sur différents endroits, différents champs de tir et autres. Et même quand on est à Lorient, où on est censé rentrer chez nous le soir... ce qu'on appelle le dégager à 18h ou à 19h, bah lui nous dit non, vous restez et on va s'entraîner. On va s'entraîner au mécanisme, on va s'entraîner au secourisme, on va s'entraîner à toutes ces choses. Donc, on passe à peu près 3 à 4 jours par semaine, nuit par semaine, alors qu'on est, on est à Lorient. Donc, c'est difficile parce que du coup, on n'a pas de vie de famille à côté. Mais quelque part, on comprend et après, je comprendrai pourquoi on le fait.
Et après, tu as compris pourquoi il était dur.
Oui, je
quand tu es au bord de mourir, il y a un exercice qui va te sauver, mais on reviendra dessus après. Mais
oui.
C'est l'exercice que vous répétez sans cesse.
Oui, c'est de 90 mètres portée.
Voilà, vous voyez la photo à l'image, là. Là, on voit, c'est Momo sur la gauche, c'est ça?
Oui.
On va flouter, de toute façon, tous les visages, mais vous sachiez, c'est l'homme dont tu parles. Est-ce que c'est toi sur la photo ?
Absolument, oui.
C'est quoi le principe ?
Alors le 80 mètres portée, ça fait partie d'un exercice lors des évaluations. Le principe est simple, hein, c'est de faire 90 mètres en portant un de ses camarades. Alors pour les évaluations, on est classé par poids, et le but est de faire dans un temps donné ces fameux 90 mètres en portant donc sur les épaules. Et c'est vrai que moi, en 2003, lorsque je fais les évaluations, je comprends pas forcément le sens. Pourquoi on nous fait faire du 90 mètres portée ? Bon, c'était un exercice comme un autre. Et c'est qu'après que je comprendrai, en arrivant en commando, donc Momo qui n'a de cesse de nous faire répéter ce type d'exercice, qui pleuve, qui neige, qui vente de nuit, de jour, avec des équipements lourds ou pas, c'est 90 mètres portée. Donc lui a toujours, tout de suite instauré le fait de mettre un blessé dans chacun de nos exercices, ce qui n'était pas le cas en fait avant. Donc on faisait beaucoup de drill, d'entraînement au tir, d'entraînement à des postures, des positions, des mécanismes de combat, mais systématiquement, il implantait le blessé. Donc le blessé, c'était par le 90 mètres portée qu'on pouvait l'évacuer.
Et en tant que marine, vous avez des exercices en mer, sur des bateaux, sur des zodiacs, sur tout ça,
ouais,
pareil?
Absolument, en fait, la particule du commando marine au niveau des forces spéciales, c'est aussi la partie marine, la partie mer, donc que ça soit en subaquatique avec les nageurs de combat Uber, ou alors partir des étracos ou des zodiacs pour commencer les missions.
Ensuite, tu fais quelques mois d'entraînement intensif à Djibouti. Donc, ils t'emmènent à Djibouti pour t'entraîner en 2005. Tu pars faire un stage pour devenir chuteur opérationnel à Pau.
Oui.
Chuteur OBS, donc ceux qui sont parachutés et qui font le combat, en gros. Tu sautes à 4000 mètres d'altitude avec tout le matos.
Oui.
Là, on te voit là, juste derrière toi, c'est Arnaud Beltram.
Oui.
Qui est décédé à l'attentat de Trèbes,
oui,
dans le supermarché, le gendarme, qui a donné sa vie pour sauver une dame. On le voit vraiment juste, voilà, vous le voyez à l'image là. Tu as passé du temps avec lui ?
Oui, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. J'ai surtout eu la chance de le croiser, parce que c'était quelqu'un, ce qu'il a fait ne m'étonne pas. C'était quelqu'un de foncièrement bon, avec qui je m'étais vraiment lié d'amitié. On s'est suivi après, au cours de notre carrière. On était dans les chambres à côté, donc on passait énormément de temps ensemble. On a passé tout ce stage ensemble. Donc voilà, on a eu une connexion particulière. Il me proposait même, il faisait partie de GIGN, enfin ce qu'on appelle le GIGN aujourd'hui, mais il voulait que je rentre dans son groupe. Enfin, il faisait tout pour que je puisse venir en gendarmerie. Et puis bon, finalement, j'ai poursuivi dans les commandos marines, mais voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment exemplaire, et le courage qu'il a pu avoir, j'en suis pas tout à fait étonné. Et quelqu'un d'une dignité, d'une humilité et d'une modestie en somme, vraiment très particulière, qui m'a toujours très touché. Ouais.
T'as eu un saut qui s'est mal passé en entraînement, avant de parler de l'Afghanistan. Tu pars en autorotation.
Oui. Qu'est-ce
qui se passe?
En fait, on sort à 4000 mètres et donc on est équipé lourd, donc on a notre gaine devant avec tout le poids, l'armement et autres. Et donc quand on saute, c'est un petit peu le principe des tandems. Je sais pas si vous voyez les tandems, il y a toujours un espèce de petit parachute en fait.
Ouais, de mini parachute. Ouais.
Exactement. Il est là pour entre guillemets freiner la chute et assurer quelque part la stabilité. Et moi, je pars en autorotation, donc j'ai une position qui est peut-être pas tout à fait bonne, ou la position, entre guillemets, de ma gaine qui est mal réglée. Et là, en fait, je commence à tourner sur moi-même et à une vitesse qui est de plus en plus rapide et vive. Et donc, là, on a le sang, c'est une centrifugeuse. Hein, donc, bon, je ne sais pas combien de tours par minute j'effectue, mais j'ai la tête qui devient complètement rouge. Enfin, je l'imagine comme ça, j'ai les yeux qui s'exorbitent. Et il y a quand même toujours cette lucidité. Et je tire la poignée pour ouvrir le parachute. Et je m'en sors plutôt bien au final. Donc voilà.
Bon, ça te fait pas peur ?
Des expériences.
Ça te conforte quand même dans l'idée que tu veux faire ce métier ?
Ah oui, absolument. Enfin, je veux dire, on s'entraîne aussi à la dureté, à la difficulté des choses pour qu'elles deviennent un peu moins difficiles lors de nos théâtres d'opération. Donc ça fait partie aussi... du boulot, de s'entraîner et d'avoir des difficultés en permanence et surtout de s'y adapter. Voilà.
Et c'est en juillet 2005 que tu es envoyé en Afghanistan.
Oui.
Pour la première fois en OPEX, en opération, vous partez pour 7 mois d'un coup. Qu'est-ce que tu ressens quand tu pars pour la première fois, toi ?
C'est une attente très particulière. Hein. Pour ça, en fait. On rentre dans les commandos pour vivre cette expérience-là, de partir en mission réelle. Moi, je ne suis pas prévu de partir, en fait, au départ. En début 2005, c'est dans l'ordre d'arrivée des commandos aussi. Donc, il y a des gens qui sont plus anciens, qui attendent, en fait, de partir. En plus, j'ai accédé au stage chuteur opérationnel. Donc, je ne suis pas prévu de partir, initialement. Et en rentrant du stage, il y a des espèces d'entraînement, entre guillemets, pour cette préparation-là, et il faut quelqu'un qui parle anglais. Il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais dans le groupe. Et donc, le commandant du commando me reçoit, et voilà, on fait des entretiens en anglais, de manière à ce que, là-bas, il puisse avoir quelqu'un qui soit en capacité d'être avec le traducteur. Donc, je suis, entre guillemets, inscrit sur cette liste. Et donc là,
C'est la joie,
c'est quelque chose...
T'as pas d'enfant encore à l'époque ?
Non, pas du tout, non.
Depuis, mais t'en avais pas.
Oui.
C'est quoi le but de la mission quand vous partez en Afghanistan ? C'est quoi votre journée quotidienne moyenne ?
Alors le but de la mission, en fait, c'est la recherche et la quête de tous les réseaux talibans. Voilà, c'est d'identifier, faire du renseignement pour trouver ces talibans. On est dans le sud de l'Afghanistan, à Spinboldak, et en fait, on part pour des longues semaines, une semaine, 15 jours, voire 3 semaines sur le terrain, avec différents moyens, que ce soit en patrouille pédestre, en patrouille motorisée. Voilà, notre but, c'est de rentrer dans les villages, d'aller à la rencontre des chefs de village.
Du maire ?
Ouais, mais là, c'est beaucoup plus tribal, donc du coup, c'est des chefs de village que l'on rencontre, de manière à les questionner s'ils ont vu, s'ils voient des talibans.
Ils sont très honnêtes ou pas avec vous ? Ou ils peuvent pas parler ?
Ils sont sous pression.
Ils sont
vraiment sous pression parce qu'en fait, on se rend dans des zones qui nous ont été indiquées par les services de renseignement comme étant des poches, entre guillemets, de talibans. Donc, on sait qu'ils sont sous pression. On a aussi ces exemples-là, et un notamment d'un chef de village qui était soldat du commandant Massoud. Commandant Massoud, très connu en Afghanistan, qui avait, entre guillemets, brillé contre l'armée russe pour les repousser, l'envahisseur russe. Et donc, on rencontre ce chef qui nous dit « Je ne peux pas vous parler, je ne peux pas vous dire. » Parce qu'en fait, ils sont là. Ils sont là, ils sont autour de vous, ils sont autour de nous, en train de nous espionner. Il y en a peut-être qui sont là, en train de boire le thé avec nous. Et si je le dis, ils tueront ma famille, ils tueront mes enfants. Donc en fait, ces gens-là sont pris au piège. Hein. Ce sont des villageois qui vivent de l'agriculture et autres, mais qui sont sous une pression folle, avec des gens qui viennent les piller toutes les nuits, au quotidien.
Ah oui.
Absolument, oui. En fait, les talibans vivent dans les montagnes, donc très très haut dans les montagnes. Ils descendent dans les villages pour venir chercher de la nourriture et retourner après dans leur plan, quelque part. Donc,
ouais. Vous prenez des ânes. Ouais. Une photo de vous avec des ânes. Vous les préparez pour effectuer des infiltrations, c'est-à-dire ?
En fait, on fait des infiltrations pédestres. Alors là, on fait aussi énormément de renseignements. Renseignements, quand on dit renseignements, c'est de se mettre aussi à distance des villages, donc avec des moyens... des moyens de photographie, on a aussi des satellites qu'on envoie, tout un tas d'informations à notre base, Spinboldak, et donc on fait des infiltrations pédestres. Les équipements sont très lourds, hein. On a des sacs qui font 60 kg, parce qu'il faut assurer l'autonomie en vivres, en eau. On a des variations de température de l'ordre de 40 degrés, il fait 30-35 degrés la journée, moins 5, moins 10 la nuit. Donc c'est très, très difficile, donc beaucoup d'eau et aussi beaucoup de batteries, parce que pour toutes les transmissions, on a besoin d'énormément d'accus de batteries et ça pèse très lourd. Donc on est tous chargés comme des ânes, sans mauvais jeu de mots, mais donc du coup, il nous arrive de prendre des ânes, oui.
Et alors là, on voit une photo de toi, là t'es à la 12, donc t'es sur le toit d'un véhicule en train de tenir justement l'arme qu'il y a sur la tourelle. On voit des populations locales, là tu nous as donné des photos de l'époque. Et là on te voit au camp de Garang, donc c'est la base avancée. Votre routine, c'est de tirer des obus ? On va faire quoi ?
Ouais, tous les soirs en fait, Garang c'est une base avancée qui se situe, on l'appelle comme ça à l'époque, c'est la vallée de la mort, hein. C'est vraiment un coupe-gorge. Et dans cette vallée, en fait, les talibans minent systématiquement le passage pour ne pas nous permettre de passer. Et à chaque fois qu'il y a des troupes françaises, américaines ou autres, avec leurs renseignements, ils font en sorte de miner le terrain. Et donc sur Garang, en fait, on a cette habitude tous les soirs de tirer des obus sur la montagne qui est en face, de manière à, un, observer. On a des obus éclairants donc qui explosent et, comme leur nom l'indique, éclairent, nous permettent de visualiser un petit peu tout ce qui se passe, et aussi pour, quelque part, effrayer et faire peur des insurgés qui voudraient venir nous attaquer. On est juste de groupe sur le camp de Garang, donc on est vraiment à la merci de toute attaque. Et donc là, on est...
On dort mal,
on est très fatigué, donc on arrive à dormir. On a toujours deux personnes qui assurent la garde de la nuit. Donc la journée, ce sont des Afghans. Il y a un groupe d'Afghans qui est là pour assurer, entre guillemets, la protection la journée du camp. Et la nuit... Pour des raisons de sécurité aussi, de notre propre sécurité, on assure cette veille. Donc en binôme, on se retrouve à la tour avec des moyens thermiques pour observer tout l'environnement, éviter de se faire attaquer.
Là, on te voit avec un chef de village lors d'une rencontre, hein, c'est comme ça que ça se passe, vous êtes assis par terre là,
oui.
Sur la photo. Quand vous trouvez des talibans, vous en cherchez, quand vous en trouvez, qu'est-ce que vous en faites ?
Alors on les remet, tout dépend dans quel cadre on se trouve, si on est en véhicule ou à pied. Immédiatement, de toute façon, on rend compte à notre QG. Hein. Il y a toujours un chef, que ce soit sur la base avancée ou que ce soit à Spinboldak. Et là, on les remet aux Américains.
Toujours vivants ? Enfin, vous arrivez toujours à les attraper vivants ?
Non. En tout cas, ceux qu'on a pu attraper vivants, on les a remis aux Américains. Donc on les amène carrément dans le camp des Américains. Je participerai même à une nuit à les garder complètement dans une geôle, hein, une vraie prison qui avait été construite à cet effet chez les Américains. Et ensuite, ils sont remis au service de renseignement des Américains. Oui.
C'est pas vous qui faites les interrogatoires ?
Absolument pas, non. Non, on n'est pas formé à ça.
Non, mais même pas les Français, c'est les Américains.
Alors, il y avait des Français qui faisaient ça sur Spinboldak, mais qui le faisaient, je pense, quelques heures. Je ne maîtrise pas tout à fait le sujet. Et puis, je sais qu'ils étaient remis systématiquement.
Voilà un village là où se cachaient des talibans, une photo qui apparaît. Donc, tout est en terre, hein, c'est couleur très sable, etc. Tu ne peux pas reconnaître un taliban. C'est des gens qui sont habillés pareil que les villageois. C'est ça qui est très dur, apparemment, en Afghanistan.
Oui, les seules distinctions et ce qu'on a au niveau des services, c'est que du renseignement, c'est que les talibans ont coutume de se maquiller. Donc, ils se maquillent les yeux en noir. Donc, ça, c'est un élément de distinction. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vérifiable. Et puis... Après, certains avaient les ongles aussi peints en noir. Donc voilà, il y a des éléments de distinction comme ça qu'on peut, voilà, qu'on avait...
Pourquoi il se maquille les yeux ?
J'en ai aucune idée. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Nous, on a un traducteur afghan et qui est là aussi pour nous aider aussi à cette... je dirais, à déterminer si potentiellement il y a un risque. Donc il arrivera qu'on prenne des talibans. Ouais,
tu deviens parano à force ou pas ?
Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. La menace, on est toujours sur le qui-vive. On sait qu'à partir du moment où on est dans un véhicule, et c'est ça qui est très dur et très exigeant, entre guillemets, dans cette mission de 7 mois, c'est qu'à aucun moment, il faut baisser la garde. Et c'est vrai qu'on pourrait très rapidement, en fait, tomber dans cette routine où ça fait 3 jours, 4 jours qu'on est en véhicule. Il n'y a pas de route, hein, on est sur des chemins, on est sur des voies qui ne sont pas carrossables, donc on passe dans des talvegs, on passe dans des fleuves. Et donc on aurait tendance peut-être à baisser la garde. Et c'est là où est le danger, c'est que l'ensemble, et même chacun d'entre nous, baisse la garde, et à ce moment-là, on serait menacé.
Quand tu dois livrer un taliban, ça se passe comment ? Vous le bandez les yeux ? Comment vous faites ?
Oui, absolument. Enfin, on lui bande les yeux, donc on a des lunettes de ski, tout simplement, sur lesquelles on a mis... du Chatterton noir, et puis on leur met ça sur le visage. Et puis, surtout quand on est en patrouille pédestre, donc il faut qu'on puisse les encadrer. Donc on ne leur met pas forcément des serflex, surtout qu'on est 12 autour de lui. Donc il n'y a pas trop de moyens qu'il puisse partir. Suivant les endroits où on est, on le serflex ou non. Et donc après, on le remet aux autorités compétentes. Ouais.
Là, on te voit faire la fouille, c'est toi, lors d'un checkpoint ?
Oui.
Tu te souviens de la première fois où tu as dû éliminer un taliban qui t'a attaqué ?
C'est arrivé pendant une opération, oui, tout à fait, une particulière, oui.
C'est pendant cette opération où
j'ai été blessé, oui.
Oui, c'est celle-là. On va en parler dans 30 secondes, alors. Juste avant, tu nous as donné une photo d'une mine TC6.
Oui.
Ça, c'est intéressant parce qu'on n'en voit pas souvent dans l'émission. On en parle parfois avec des militaires, mais on n'a pas l'occasion de les voir. Donc là, vous voyez, ça a été. On voit, il y a un couteau là, qui a permis un petit peu de faire un trou autour. On voit un câble d'ailleurs qui monte. C'est des télécommandés ?
Oui, oui. Alors.
Un filo guidé, enfin, je ne sais pas comment dire.
En fait, les talibans utilisent tous les moyens possibles et imaginaux. Cette TC6 en question est une mine italienne qui normalement se déclenche sous la pression, donc avec un véhicule. À partir du moment où on fait une pression, à ce moment-là, la munition explose, la mine explose. Mais les talibans, ont toutes les capacités à utiliser tout ce qui traîne sur la main, toutes les munitions, de vieilles munitions russes, qu'ils font des chapelets, ils font des gros tas, ils cachent tout ça, et puis avec des moyens électroniques, par téléphone, par onde radio, sont en capacité de...
Ils arrivent à modifier.
Absolument.
Ils sont bons technologiquement. Ils arrivent à se débrouiller toujours.
Ils sont très bons technologiquement. Nous, on savait aussi par rapport à nos services de renseignement, à Spinboldak, qu'il y avait une école en Pakistan, donc à quelques kilomètres, une école qui formait en fait ces talibans à la pose de munitions. Oui, oui, un endroit où ils étaient formés. Là, c'est de l'électronique. Hein, c'est des choses qui sont quand même qui peuvent être pointues.
Et puis, il ne faut pas se planter.
Oui, certains se planteront. On les découvre,
Parfois, tu vois des mecs morts à côté de mines ?
Oui, oui, oui.
En les installant ?
En les installant, très certainement, oui, tout à fait. Donc, on découvre ce type de situation. Oui.
C'est très violent, une mine comme ça. On voit un véhicule là, de l'armée française, un 13e RDP, qui a explosé sur un IED, sur un engin explosif. Là, vous avez la photo. Il n'y a plus du tout toute la partie avant, hein, finalement. Oui. Donc, c'est pas gros, mais ça pète fort, en gros.
Tout à fait, oui.
Toi, ça fait un mois que tu es en Afghanistan, tu perds un camarade, un soldat du 1er PIMA, Force Spéciale, qui roule sur une mine, justement.
Oui.
Il décède. C'est la première fois que tu perds un ami à ce moment-là. Enfin, c'est un ami ou c'est un
soldat ? Non, c'est pas.
Un soldat...
C'est une connaissance du TG, en fait, de Spinboldak. En fait, ça fait un mois qu'on se connaît, qu'on se fréquente, qu'on se croise, qu'on discute. Puis quand on est à Spinboldak, on est ensemble, on essaye de se raconter un petit peu ce qu'on a fait et on est tout de suite dans le bain, quoi, parce que 3 semaines, 1 mois après, son véhicule saute sur une mine et malheureusement, il mourra tout de suite de ses blessures. La voiture est complètement... c'est une P4, le moteur est retrouvé à peu près à 15 mètres. Nous, on n'est pas très loin, en fait, le groupe, on n'est pas très loin de la situation en question. Donc on va sur place et là, c'est tragique. On est dans un moment très particulier. Ouais. On découvre que là, c'est très chaud. Ouais.
Il y a une cérémonie pour honorer sa mort à Kandahar après. Oui. Tu prends conscience à ce moment-là qu'il y a un vrai risque pour toi quand tu vois qu'il y a des autres Français qui y passent.
Oui, c'est à ce moment-là, oui. Je veux dire, la cérémonie, naturellement, était très chargée. Donc, on se déplace à quelques groupes de Spinboldak. On prend un hélicoptère pour se rendre et puis faire partir le corps qui part en avion, rejoindre la France. Et c'est vrai que cette cérémonie est un fait marquant dans mon passage dans l'armée.
Vous vous faites prendre par des insurgés à un moment donné. Vous êtes obligé d'appeler la chasse américaine, c'est-à-dire des avions?
Absolument. Alors là, on est à Garangue et on est le soir. Il doit être à peu près 16h ou 17h. Et la tour, donc c'est des gardes afghans qui sont encore là-haut, qui voient des mouvements se rapprocher vivement de nous. On est dans un tout petit village. Hein. Alors je serais incapable de dire le nombre de maisons qu'il y a, mais il y a peut-être 30 maisons dans ce village et encore. Donc on est en plein centre du village. Et là, sur 180 degrés, on a tous ces insurgés qui arrivent. Donc on commence à tirer, protéger notre camp et protéger notre vie, tirer des obus de mortier. Le mortier est là tout de suite pour, entre guillemets, pour effrayer, faire partir les gens ou même les détruire. Et on est à la tombée de la nuit. Et donc on est dans une phase un petit peu critique. Et là, on voit ces mouvements qui approchent de plus en plus. Le chef du détachement hésite à faire partie une patrouille, et donc ma patrouille d'ailleurs, le groupe 31, pour aller au contact au plus près pour éviter de les faire avancer. Puis finalement, on oublie cette idée-là. Et donc on appelle la chasse. On a toujours. Il y a toujours des patrouilleurs dans le ciel, que ce soit des Français, des Américains qui sont là, entre guillemets, pour nous. Pour protéger, hein, quelque part. Donc on appelle
la dernière rempart, là.
Absolument. Absolument. Et donc moi, j'ai été formé en France, du côté de Nancy, pour communiquer directement avec les pilotes, avec des moyens radio. Et donc on a toute une procédure d'identification avec ce pilote-là. Et là, je tombe sur un pilote avec un accent. Las Vegas, Texan, enfin quelque chose d'incompréhensible. On est deux, j'ai un lieutenant aussi qui est avec moi, qui a un meilleur niveau d'anglais que moi aussi, et on observe de grosses difficultés dans la communication. On rentre dans cette procédure-là, puis on commence à lui désigner les objectifs qu'on voit, hein, qui sont face à nous. Et en fait, l'avion a un système de pod, en fait, qui envoie des IR, des infrarouges. Et en fait, au moment où il commence à envoyer ses infrarouges, en fait, la position est sur nous, quoi. La position. Donc, il est en train d'illuminer notre position, prêt à balancer sa bombe, quoi. Ou à faire des passes canons avec des grosses mitrailleuses, entre guillemets, sur l'avion. Donc là, on lui dit stop, 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 arrête tout, parce que sinon, c'est nous que tu vas satelliser quelque part. Donc on change, et puis finalement, ça se termine bien. Il fait sa passe de tir et voilà, on sera en veille toute la nuit pour protéger le camp. Ouais.
Avant de parler de ton histoire, où tu as failli passer dans une opération, tu vas arrêter un véhicule, tu as un feeling bizarre.
Oui, on est, ça fait quelques jours qu'on est sur le terrain, et là, on a toutes les indications qui portent à croire qu'il y a beaucoup de mouvements talibans. On retrouve, on fait beaucoup de fouilles aussi de villages, on rentre dans les villages, on retrouve des câbles électriques, on a beaucoup une sensation assez bizarre. On retrouve pas de munitions, je m'en rappelle, dans ce camp. Et en repartant de ce village, on est vraiment juste aux abords du village. Il y a un véhicule qui arrive, une espèce de grand véhicule. Il y a cinq hommes à l'intérieur, et de suite on sent quelque chose. Je veux dire, donc on arrête ce véhicule. On avait fait un checkpoint, on arrête ce véhicule. Et vraiment, alors je parle avec notre traducteur qui lui aussi sent quelque chose de pas normal.
Et c'est de quoi peu... dans l'aura des mecs, dans les
ouais, machines, dans leur manière de nous regarder, un petit peu un sentiment de peur, j'imagine, de leur part, parce que du coup ils se retrouvent face à 12 mecs armés, pris au piège quelque part. Donc on voit ce sentiment de peur qu'on n'observait pas forcément avec la population locale, qui était toujours, je veux dire, agréable, sympathique, qui nous recevait, qui nous accueillait, qui nous donnait des légumes ou des fruits. Enfin, et là, on sent quelque chose d'étrange et de bizarre. Et donc on commence à les prendre en photo, à les identifier, à les bloquer sur place. Et en fait, en 2005, on a des moyens de communication qui sont hautement différents que ceux qu'on a aujourd'hui, des moyens satellitaires avec des ordinateurs qui fonctionnaient pas toujours, mais les progrès de l'électronique et de la technique ont amélioré ça. Et en fait, on n'arrive pas à envoyer les photos à notre base à Spindbuldak. Impossible d'envoyer les photos. Le radio qui est là fait tout pour que la communication puisse se faire et n'y arrive pas. Et au bout de 3-4 heures, obligé de relâcher, entre guillemets, ces personnes. On ne pouvait pas les garder sur place indéfiniment, hein, sans avoir la quasi-certitude qu'ils étaient talibans. Et on les relâche. Et en rentrant 3-4 jours plus tard sur Spindbuldak, on va au contact du renseignement qui nous dira que, en fait, ces personnes étaient des HVT, donc des personnes très haut placées dans l'organigramme des talibans. Et donc, on avait laisser partir, laisser filer, malgré nous. Malgré
5 nous. Gros talibans.
Oui, oui. Donc ça, c'est une forme de déception. Ouais.
C'est une forme de déception. Après, tu l'apprends après, quoi.
Oui.
En octobre 2005, c'est là où ça va mal se passer pour toi, où tu as une opération qui va se passer proche de la frontière pakistanaise, donc en Afghanistan, mais proche du Pakistan, toujours. C'est là où tu vas passer pas loin de la mort, où tu vas survivre. Dans une scène digne d'un film américain, encore grâce à ton chef.
Oui, oui, oui.
Décidément, celui-là,
tu
l'as remercié.
Oui, naturellement, oui, oui. Naturellement.
Est-ce que tu peux raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là?
On est le 4 octobre, on part pour une mission de renseignement. Donc on est sur Garang, des hélicoptères doivent venir nous chercher pour nous projeter tout en haut des montagnes. On est dans l'Himalaya, hein. Enfin, c'est la chaîne de l'Himalaya. Donc, deux hélicoptères viennent nous récupérer. Il y a un groupe de forces spéciales, donc les commandos marines, le groupe 31, nous, et un autre groupe encadré par deux commandos de chez nous, avec des Afghans. Et on part pour à peu près 5 jours de renseignements sur des villages, pour faire de la photo, et puis pour se rendre compte un petit peu des mouvements ennemis qu'il pouvait y avoir sur cette zone. On part, donc on est on est vraiment équipé lourd, on a des sacs à 60 kilos, on a un chasuble qui fait à peu près 15 kilos avec toutes les munitions, que ce soit les grenades à fusil, les chargeurs, les moyens radio et autres. Donc on part en hélicoptère, on est déposé tout au sommet d'une montagne, on est déposé, on est en plein jour, il est à peu près 10 heures du matin, donc qui dit jour dit visible, le propre du commando marine c'est d'opérer la nuit, hein. c'est vraiment, là pour des raisons de hélicoptère, on ne peut que se faire poser de jour, et on commence notre infiltration, donc les Afghans, l'armée afghane part d'un côté, et nous on part de l'autre, chacun avait ses positions à observer, et au bout de 2 heures d'infiltration, donc là on est vraiment dans les montagnes, montées, descentes et autres, on voit deux hommes armés avec des moyens radio à une distance d'environ 1,5 km, quelque chose comme ça. Moi, je suis tout en début de cortège, au début de la formation. Et donc, on commence à regarder un petit peu ce qui se passe. On pensait que c'était l'ANP. L'ANP, c'est la police afghane, en fait, qui patrouillait souvent dans les zones dans lesquelles nous étions, eux aussi à la recherche de talibans et autres. Donc on décide de s'approcher, de s'avancer, et puis de faire ce qu'on appelle un recueil, hein. On pose des sacs, parce que là on est équipé vraiment très lourd. Donc on dépose des sacs, un colonel qui nous avait, un colonel de l'armée de terre qui nous accompagnait sur cette mission, restera sur ce recueil avec le radio, de manière à assurer les transmissions, au cas où il se passe quelque chose. Et donc on se rapproche au plus près, donc il faut imaginer une montagne, il y a un Talweg qui nous sépare et une autre montagne en face. Et donc, on est à des distances d'environ 200-300 mètres entre les deux. Et donc, on observe un petit peu le mouvement et le chef de groupe, décide d'envoyer un binôme. Donc, je fais partie de ce binôme, je suis devant et avec un lieutenant qui est dans le groupe depuis à peu près un an. On doit descendre en fait dans le Talweg, tout en bas de la montagne, pour la remonter et aller au contact, pendant que les autres nous appuient au niveau de notre... Quand je dis appuyer, c'est... On emploie souvent le mot couverture, nous couvre. C'est pas tout à fait un terme. Enfin, c'est un terme militaire, mais qui correspond pas au fait d'appuyer la progression. Donc, on descend. Enfin, on se prépare à descendre. Et moi, je sens quelque chose de vraiment très particulier, inexplicable. Et je fais quelque chose qui est pas dans l'ordre des choses. C'est que je prends une grenade à fusil, je la mets sur le canon de mon arme. Et en
déplacement. Est-ce que tu fais jamais?
Ce que je fais jamais, il n'y a aucune raison de faire ce type d'action.
Ça sert à quoi ?
La grenade à fusil, bah, c'est tout simplement... Alors, il existe deux types de munitions, une anti-char, une anti-personnel. C'est tout simplement prendre une position de tir et tirer sur les personnes ou sur le véhicule de manière à avoir un effet de souffle ou un effet de fragmentation qui vient traiter plusieurs personnes en même temps. Mais aucune raison de mettre cette grenade à fusil à poste, donc sur le canon, parce que je ne suis pas au contact direct, il n'y a pas de feu, véritablement. Et donc je mets cette grenade à fusil et je descends cette montagne, je descends directement dans le Talweg, et à un pas de course, voilà, j'ai une sensation très très bizarre. Et j'arrive en bas, et c'est là que le début commence, entre guillemets, de cet accrochage, en fait. On est pris à partie.
Donc, par combien de gars ?
Alors on le saura plus tard, hein. On le saura plus tard avec les membres du renseignement, mais c'est entre 100 et 150 personnes qui sont face à nous. Nous on est à peine 10, donc on est dans une situation qui est
défavorable,
extrêmement tendue. Donc je suis en bas. Luigi, je peux pas m'en tourner, je sais qu'il est, c'est le Lyot qui n'est pas très loin. En tout cas, je le pense. Et là, je commence à voir les impacts de balles autour de moi. Donc, je le vois à la poussière, hein, tout simplement, et puis au claquement des armes. Donc, j'essaye de zigzaguer et autres. Je plonge au sol pour tirer ma grenade à fusil en direction de la position qu'on avait identifiée à l'origine où il y avait ce mouvement de personnel. Je tire ma grenade à fusil. Je ne vois pas si je touche ou pas, vu que c'est sur les hauts. Et là, en me relevant, j'ai deux personnes en face de moi que je pourrais identifier jusqu'à ma mort. Un avec une chèche noire et blanc, l'autre avec une chèche toute blanche. Et je traite. Je traite. Et
tu traites, c'est-à-dire que tu les touches, eux ?
Oui, tout à fait.
Et ils sont armés ?
Tout à fait.
Ils arrivent vers toi, machin. Tu vois que c'est pas des bergers, quoi.
Exactement. Donc je traite et en repartant.
C'est le premier que tu traites ?
Oui.
Tu tues, quoi. Voilà.
Oui.
C'est pas ton copain, ton binôme, c'est toi, oui, qui t'en occupes, c'est toi qui les vois.
Oui.
Et tu te rappelles de leur visage, ils étaient proches.
Ils étaient à une distance d'environ 30 mètres, en fait. Je revois.
Très proche, on tire.
Oui, c'est
toi ou eux, quoi, de toute façon.
Oui, tout à fait. En fait, je tire ma grenade à fusil. En me relevant, j'avais un problème sur ma lunette. Un M-point, c'est un dispositif de.
Un point rouge.
Exactement. Et en fait, j'ai un problème avec le rabat. Et en fait, quand je me relève, je vois ces personnes et je fais juste un mouvement avec le doigt. Et en fait, ils sont juste là, quoi. Ils sont juste face à moi. Donc je traite et en partant, il se passe, là, c'est quelques secondes, hein, et j'entends un grand boom, mais quelque chose comme un canon de char où on entend une vive explosion. Et tout ça se passe en un quart de seconde. Et là, je sens un impact qui me transperce quelque part, et en fait on me tire au RPG-7, en fait. Donc un taliban me tire au pied, un lance-roquette, ouais, tout à fait, me tire au niveau des pieds, donc je suis propulsé en arrière, je m'écrase sur les pierres et les roches qu'il y a au sol, et là je me retrouve confronté dans un nuage de poussière, ne sachant plus où est le nord, du sud, l'ami, les ennemis, et donc j'ai le souffle coupé, bon, j'aurai les côtes cassées, je serai criblé, j'aurai des impacts, des fragments. La chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est qu'on tire ce RPG-7, ce lance-roquette. La munition, enfin, ce qu'on en déduira, c'est que la munition utilisée était un anti-véhicule, donc il n'a pas de fragmentation véritable. Donc, j'aurai cette chance-là, c'est que la munition employée n'était pas pour du personnel, mais pour du véhicule. Donc avec un effet de...
Mais sans clou à l'intérieur, quoi, en gros.
Exactement. Un effet de souffle, donc je suis juste projeté sur quelques mètres, et puis...
Mais t'as les oreilles qui sifflent, t'entends plus rien, ou ça t'assomme un peu ?
Ouais, alors j'ai tendance à dire que dès le départ, en fait, il y a un film qui le retracerait bien, mais dont j'ai perdu le nom, je crois que c'est Le Soldat Ryan. À un moment donné, lorsque le soldat arrive sur la plage, il y a une espèce de bourdonnement, enfin, je ne sais pas si ceux qui ont vu le film voient ce moment-là, où il n'est pas blessé, mais il est dans une... Ouais, il y a une espèce de bourdonnement, et il cherche un petit peu... J'étais personnellement dans cette attitude-là...
Allongé
à partir du moment où ça a commencé à tirer. Donc j'ai pas de sensation de douleur, aucune. Ce que je veux, c'est vite sortir de cet amas de fumée. Et donc je prends une direction, enfin, ne sachant pas où aller, ça continue de tirer. Hein. Le groupe qui est en train de nous appuyer est en train de tirer. On a deux tireurs d'élite qui sont en train de traiter aussi. Et en sortant, je tombe nez à nez avec ce fameux Luigi. Donc je sors de la fumée, je tombe nez à nez avec lui, enfin quelque part un peu le hasard. Mon binôme, qui me prend, on se prend les épaules l'un dessus par-dessus de l'autre. Et puis deuxième roquette qui nous tape beaucoup plus loin, mais relativement proche pour un petit peu nous bouger. Et là on trouve une espèce de monticule de terre. Pardon.
Je suis désolé. Ah pardon, parce que je...
Pour non, ça, je savais.
Ouais, c'est dur de se rappeler des souvenirs et tout comme ça. Puis là, en plus, c'est vraiment le...
Je suis désolé.
T'inquiète. Surtout pas. Prends ton temps. J'ai du whisky. J'ai du rosé. J'ai du rouge.
J'ai la cuvée 44.
Ouais. Ouais, c'est super, super chaud de raconter des trucs comme ça. On a le temps, nous.
Ouais.
On a 2 heures de carte même.
Je suis désolé. Donc on se retrouve en sortant de ce amas de fumée, je le retrouve. Et là, on trouve un monticule de terre où se mettre à l'abri. Donc on a deux positions hautes, l'ennemi qui est d'un côté, nous, et entre guillemets, les gens qui nous appuient de l'autre. Et nous, malheureusement, on est au milieu. Donc à portée de tir, naturellement, des talibans en face, donc on se met dos à l'ennemi, donc on a l'équivalent d'un la hauteur d'un bureau, et donc on se fait tirer dessus en permanence.
Ouais, t'entends que ça claque.
Voilà, et donc là, si tu veux, on a les jambes allongées, donc on essaye de se retourner, on applique des tirs, je dirais sans voir, un petit peu comme on voit dans les films.
Libanaise.
Exactement, donc on essaye de...
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
D'appliquer des tirs de manière à effrayer ou les faire arrêter, mais voilà, sans prendre de position de tir, parce que en fait on est dos à l'ennemi, donc il se situe sur l'eau, nous on a juste ce monticule de terre qui est là pour nous protéger, et on voit les impacts qui nous tapent au niveau des pieds, et donc on voit la fumée qui part en fait dans l'axe de notre corps comme ça, et puis petit à petit l'axe commence à changer. C'est que l'axe, la fumée commence à faire comme ça. Donc plutôt que d'être dans notre...
Ah oui, tu dis, ils sont en train de vous encercler.
Donc ils sont en train de déborder. Donc là, on...
Et vos autres...
Et les autres sont là-haut, en train d'appliquer des feux, en train de...
Ils n'arrivent pas à les empêcher de se déplacer.
Exactement, d'essayer de traiter la menace, mais sans pour autant arriver à les arrêter, parce qu'ils sont en nombre. Donc là, ça commence à sentir mauvais, on commence à recroqueviller... Moi, je commence à être dans un état de difficulté respiratoire parce que le blast, en fait, de la munition a fait que j'ai pris une énorme charge au niveau du poumon. Donc, je commence à avoir... Je crache du sang. Enfin, je suis vraiment dans un état moyen. Et face
à ça... Il
ne faut
pas qu'ils vous retirent dedans, en plus, au RPG, là, avec juste une petite monticule de terre.
Ouais, heureusement, ils ne retireront pas sur cette position-là. Avec cet appui dont on se dispose, hein, avec les amis qui sont en train de tirer et de traiter. Et voyant, entre guillemets, ces champs de tir là, qui commencent à changer au niveau du débordement, bah, des capitaines qui est avec nous, c'est le commandant en second du commando, décide à ce que le groupe décroche. Moi, je suis plus en position, enfin, je suis plus en capacité, j'ai vraiment de grosses difficultés à respirer, j'ai le souffle coupé, j'observe des vraies difficultés, impossible pour moi de marcher. C'est pas possible parce que une forme d'adrénaline hein, qui descend et enfin qui est là, mais le fait de se mettre derrière, bah, du coup, on se centre peut-être un peu plus sur soi. Et cette adrénaline qui nous a aidés pendant quelques secondes ou quelques minutes à tenir, bah, là, j'observe.
Tu sens que c'est une baisse.
Ouais, j'observe un moment bas, quoi.
Toi, tu sais qu'ils décrochent à ce moment-là, qu'ils s'en vont.
Alors, ils décrochent pas. Là, en fait, le commandant second dit allez, Luigi, bah, écoute, tu vas remonter. Donc, on va faire un appui-feu, donc on va faire une grosse boule de feu. Tous les gens qui sont là-haut vont tirer tous ensemble en même temps, de manière à faire baisser les têtes. Et toi, tu remontes.
Tout seul.
Et bah, le but, enfin, ce qui est donné comme mission, et moi je l'entends à la radio, hein, je suis à la radio, bah, ce que je comprends, c'est qu'on me laisse sur place parce que je serais bah, trop lourd à porter pour remonter tout en haut de la montagne. Et donc ce qui est décidé, bah, c'est de me laisser sur place et que... Donc là, je commence à enlever mon moyen radio, enfin ma radio que j'ai sur moi, de manière, c'est un armement, hein, la radio.
Ah, il peut leur laisser.
Voilà, exactement, qui des moyens cryptés, donc pour pas.
T'avais impossibilité de marcher, toi ?
Non, c'était pas possible. Là, je commençais à cracher énormément de sang.
T'avais quoi intérieurement, en fait ?
Ouais, je saurais pas comment l'expliquer, c'est une énorme barre, mais qui empêche de respirer, en fait. C'est comme si on respirait, souvent on dit à demi-poumon, mais enfin là, c'était pas à demi-poumon, c'était un dixième de ma possibilité.
T'es rempli de sang, quoi.
Donc, ben, je sais pas ce qui s'est passé véritablement à l'intérieur, mais cette surpression, en fait, a diminué en gros mes poumons, et me bloquant complètement la possibilité de ventiler. Donc je commence à enlever mon moyen radio et puis là à me dire à préparer la suite en fait. Préparer la suite, donc c'est de se dire bah j'ai des moyens, j'ai des grenades sur moi. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Luigi va remonter, il va remonter, ils vont partir. Donc je serai une cible immédiate et évidente. Donc on se fait le film. On se fait le film.
Et là ça... tu te dis c'est fini?
Bah oui c'est fini. Donc et moi on a ces images là. Enfin j'ai ces images là de me dire. Je les vois arriver, ils arrivent sur moi, et puis la peur de la torture.
Est-ce qu'il faut mieux être pris vivant ou pas ?
Exactement, donc je prends mes grenades, je commence à prendre les grenades et me dire... Et je me dis, bah, voilà, je vais les dégoupiller, et puis je vais les mettre, entre guillemets, en dessous de mon dos, et de manière à ce que, lorsqu'ils me prendront, bah, ils pèteront avec moi. Donc j'ai ce truc de faire ça, et puis finalement, au moment où commence à avoir l'appui-feu, donc la boule de feu, cette fameuse personne, ce fameux Momo, prendra tous les risques et descendra de la montagne pour venir me récupérer. Donc voilà, il arrive sur ma... Il arrive sur moi directement, et ce fameux 90 mètres porté qu'il nous avait largement ennuyé pendant des années, et pendant... les évaluations, donc ils font partie de ce test, bah, il me récupérera sur le dos et profitant de l'appui-feu, bah, il me remontera sur une position intermédiaire, entre guillemets, au reste du groupe. Donc là, il me mettra en position de sécurité, hein, donc avec Luigi.
Bah, il vient, il te prend tout seul.
Oui.
Luigi part ?
Luigi l'accompagne. Il remonte la montagne, on s'arrête à mi-niveau, entre guillemets, de la montagne. Les autres amis sont tout en haut, et donc on est à mi-hauteur, mais protégé, entre guillemets, des feux.
Momo, donc, il vient jusqu'en bas,
oui.
Au risque de se faire tuer aussi.
Tout à fait.
Bon.
Tout à fait. Donc, complètement à découvert, hein, découvert des tirs, en prenant tous les risques, déjà pendant la descente, mais aussi surtout pendant la montée.
C'est un personnage de film,
Il fait, à l'époque, certainement toujours aujourd'hui, peut-être 65 kilos, j'en fais 10 de plus, voilà, et puis j'ai un brolage qui fait 25 kilos, donc voilà, enfin, c'est quelqu'un qui est hautement résistant, vaillant et autres, et voilà, qui a donné sa vie.
C'est pas son vrai prénom, Momo ?
Non.
C'était son nom de...
Oui,
comme toi, tu t'appelais Flo ?
Oui, tout à fait. tout à fait.
Ça n'a rien à voir avec Romain.
Non.
Des pseudo-pseudo, quoi.
Oui, mon pseudo,
donc, c'est... Faut, ça n'a rien à voir.
Mon pseudo, c'était Florent, en fait. Et donc, le diminutif était Flo. Et je suis... Voilà, on m'a toujours appelé comme ça. Donc, il me pose là. Et puis, on appelle le radio, qui prend connaissance de notre contact, appelle la chasse. On a la chance, à ce moment-là, d'avoir deux mirages au-dessus de nos têtes, qui ne sont pas loin. Et les mirages vont faire des passages bas au-dessus de notre position, mais il y a tellement de monde, et ça grouille tellement, qu'ils sont en incapacité d'appliquer des tirs. Je verrai un peu plus tard, d'ailleurs, les vidéos. J'ai eu la chance de pouvoir...
Du mirage ?
Ouais, des mirages qui sont passés au-dessus de la zone, et de manière à... à faire peur, et puis peut-être appliquer des tirs. Malheureusement, ils seront dans cette incapacité-là, mais ne serait, enfin, leur passage ont permis de...
C'est chaud-force, non, c'est ça, non ?
Exactement, oui.
Le terme, c'est juste pour juste faire peur, ils passent à ras, c'est tellement impressionnant déjà un avion de chasse que ça suffit à...
Exactement, donc là, ils passent vraiment à très basse altitude. Alors là, ce que je raconte, c'est ce qu'on me raconte, aussi, parce que là, j'ai un rythme cardiaque, ce que... Au moment où on me racontera, j'ai un rythme cardiaque qui passe de 180 à 40. Enfin, voilà, j'oscille un petit peu, même dans la ventilation, je crache du sang.
La machine n'est pas bien réglée, quoi.
Oui, il y a un petit problème, là. Il y a un petit problème. Et donc, ces chauffe-forces permettent, entre guillemets, au groupe de rester sur place, les feux talibans de s'arrêter et nous permettre de reprendre des positions et d'attendre des vassades. En fait, le radio appelle des hélicoptères américains. Donc un Black Hawk américain, Black Hawk médicalisé, avec un Apache. Donc un Apache, c'est un hélicoptère qui envoie des canons...
Ouais, qui est
avec
très énervé. Je vous mets une photo d'un Apache.
Apache avec... T'as
pas envie d'être en face, quoi.
Non, c'est très impressionnant. J'ai eu la chance de voir un tir de Apache. On a l'impression que quand l'hélicoptère tire, qu'il recule tellement que c'est violent et puissant. Donc eux, ils font le ménage. Donc les hélicoptères sont arrivés, ils ont fait un tour, un hippodrome autour de la situation, de manière à faire baisser les têtes. Les talibans savaient très bien ce qu'était un Apache et la puissance de feu qu'il pouvait avoir. Donc ils posent au plus près, vraiment de notre position, et donc là, me reprend.
Tu pouvais toujours pas marcher, là ?
Non, moi je suis inconscient. Hein. Donc,
wow.
Y aller. pardon. Donc oui, je suis inconscient. Alors, il se passe quelque chose de très étrange et très bizarre. Ce qu'on m'expliquera beaucoup plus tard, mais c'est la dissociation corporelle. En fait, j'ai...
N'inquiète pas, vraiment. La dissociation corporelle, c'est un sujet... Je voulais même en faire une émission complète sur ça, sur l'EMI. Les sorties de corps, les expériences de mort imminente, etc. C'est un vrai sujet qui nous intéresse et dont j'aimerais parler dans l'émission très bientôt. Oui. C'est un peu ça, en fait. T'as l'âme, j'ai l'impression de te voir.
Tout à fait.
Peut-être que c'est le cas, d'ailleurs, on ne sait pas. Ou est-ce que c'est le cerveau où tu vis ça ?
C'est inexplicable. Moi, lorsque Momo m'a remonté, sur cette position qui était, entre guillemets, protégée pour nous, là, je suis dans un état d'inconscience. Et en fait, je peux raconter toute la situation. C'est comme si je voyais, entre guillemets, si j'étais à 40 ou à 50 mètres de hauteur, et que je voyais, en fait, tout ce qui se passe. Donc je peux très clairement dire, le groupe était là, un tel était là, un tel était là. L'ennemi aussi. Donc je suis en capacité de dire, il était là, de l'identifier. Et donc je suis là-haut. Avec des moments où...
Peut-être pas très loin d'y passer.
Je sais pas, alors je l'explique pas sur le moment, je comprends pas du tout la situation, on m'apprendra plus tard ce terme de dissociation corporelle. Et puis après, c'est des flashs, mais des flashs qui sont, pour le coup, là où je suis, entre guillemets, dans mon corps, mais je reviens toujours là où je vois les hélicoptères atterrir, par exemple, je les vois comme si j'étais au-dessus d'eux, donc je les vois atterrir. Et je vois mon corps, en fait, qui est jeté dans le Black Hawk américain pour m'envoyer à Kandahar.
Voilà. Wow. Et Momo vient avec toi ?
Non, je suis tout seul à partir, là. Là, je suis tout seul à partir, donc là, je suis inconscient, donc on me prend en charge.
Donc tu ne te rappelles même pas du vol, après ?
Non, du tout. Du tout, je me réveille à Kandahar, dans un hôpital américain. Voilà,
T'as le temps de penser à ton frère, à ta famille, moment où tu es avant de devenir inconscient, de dire
non, voilà. pas du tout. Je pense surtout à ceux qui sont là, enfin à mon groupe avec le risque qu'ils sont en train de prendre, hein, quelque part aussi pour moi, parce qu'ils n'ont pas décroché, parce que la mission, elle continue, il y a 100 bonhommes en face, et qu'est-ce qui va devenir d'eux? Donc c'est ça qui me préoccupe.
Ah oui. Et quand tu te réveilles
Je me réveille, j'ai...
Le jour même ou plusieurs jours après?
Non, le jour même, alors je ne sais pas quand, après, combien de temps après, mais le jour même, en fait, j'ai été pris en charge par les médecins américains qui m'ont endormi, qui m'ont checké de partout et autres. Et je me réveille, j'ai un officier de l'armée, de la marine, qui est là, qui est à mon chevet, et qui me rassure tout de suite, t'inquiète pas, t'es en bonne santé. Et là, je découvre qu'un autre mec de mon groupe est là. Alors, voilà ce qui m'étonne. Mais lui aussi a été récupéré. En fait, une QRF, Quick Reaction Forces, un groupe qui était sur Spinball Dak, a été envoyé pour renforcer, entre guillemets, le groupe qui venait d'être pris à partie. Et lui est monté dans cet hélicoptère parce qu'il s'était blessé au genou pendant cette opération-là. Donc je le retrouve et puis voilà, on se retrouve tout de suite, voilà, un peu perdu.
Il y a une photo de toi, là, quelques semaines après l'accident, donc il se passe du temps quand même, tu as encore quelques marques sur le visage, etc. Oui. À l'hôpital, ils t'ont dit ce que tu avais, ils t'ont donné des précisions finalement?
Oui, bah, c'était un blast pulmonaire, et puis, j'ai ces éclats un petit peu...
Ils ne sont pas graves là pour le coup?
Non, 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 pas
c'est
du tout.
C'est surtout les poumons qui
ont
touché
de
courir, quoi.
Tout à fait. Donc, rien de grave en soi, mis à part ce blast et puis des côtes cassées, mais c'est rien, quoi.
Oui, par rapport au reste.
Exactement.
Où est-ce qu'il aurait pu t'arriver?
Exactement.
Momo, quand il est descendu te voir, on imagine une scène de film avec de la musique, quand tu as dit ça, ça m'a. Waouh! C'est le chef qui lui a dit de descendre? C'était le chef, Momo, ou c'était pas le chef?
Alors. C'était notre chef quand on était à Lorient, toute la préparation. Mais nous a accompagné le commandant en second du commando, donc voilà, qui au niveau hiérarchique est plus haut. Donc c'est lui qui a pris le lead sur le groupe, hein, qui devenait chef de ce groupe. Mais mon chef, c'était mon chef de groupe, c'était ce fameux Momo. Ouais.
Et lui, il n'était pas d'accord de te laisser?
Absolument.
Tu l'as revu depuis?
Oui. Je...
Tu l'as revu quand après? La première fois?
Juste après cet accident. On s'est revu peut-être 4-5 jours après, quelque chose comme ça. Je suis resté 2-3 jours en fait à l'hôpital de Kandahar. On m'a ramené à Spinball Dak. On m'avait demandé si je voulais partir en vol bleu. Donc vol bleu, c'est retourner en France pour...
souffler.
Voilà, rentrer. Et c'était hors de question pour moi. Enfin, voilà. J'avais rien, j'avais juste des côtes cassées et des éclats avec des morceaux de ferraille un petit peu de par-ci par-là, mais j'avais rien, donc je voyais pas du tout l'intérêt pour moi de rentrer. Et 2-3 jours plus tard, le groupe est rentré, a fini sa mission, est rentré, et là on s'est revu. Mais il y avait beaucoup de modestie, et quelque part, peut-être est-ce préjudiciable aussi, mais pas de communication. Donc en fait, on est rentré, et on n'en a jamais vraiment reparlé, quoi.
C'est vrai ?
Non. On n'en a jamais parlé, le groupe n'a jamais parlé de ce qui s'était passé vraiment dans les détails. On le racontait aux autres groupes, hein, en se disant qu'ils nous questionnaient, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'était relativement vague, mais voilà, il y avait une forme de... Je n'aurais pas le décrire, une modestie ou...
Tu allais lui dire merci?
Je ne sais pas si je lui ai dit merci sur le coup. Je ne crois pas. Je crois pas. Je l'ai toujours considéré, depuis que je le connaissais, comme un père spirituel. Que c'était quelqu'un qui m'a éduqué. Qui m'a éduqué militairement dans le bon sens du terme. Hein, ces notions de valeur, de courage, d'engagement. Mais je crois pas lui avoir dit merci, mais je pense lui avoir fait comprendre. Et plus tard... Je deviendrai parrain de sa fille, il deviendra...
Wow.
Et ça...
Putain.
Ah là là, je suis désolé, putain, c'est un truc de fou, ça. Ça.
Si on n'a plus le droit de vivre ses émotions. Ouais.
Donc plus tard, je deviendrai le parrain de sa fille, et lui, enfin son épouse deviendra la marraine de ma fille. Donc il y a quelque chose qui nous lie, et puis après les situations professionnelles font que on se voit moins et autres. Donc voilà, on est dans cette phase-là, mais je suis persuadé qu'on se reverra très vite.
Oh là
j'espère
là.
En tout cas.
Il verra sûrement la vidéo.
Je l'espère.
Tu lui enverras, puis ça va sûrement lui.
Oui.
Il aura l'occasion de la voir.
Oui, c'est un hommage, hein. C'est un hommage à lui, hein. Tout ce que je lui dois. Hein.
Ouais.
Tout ce que je lui dois. Mais pas que de m'avoir sauvé, c'est aussi tout ce que je lui dois en tant qu'homme.
Et après quelques semaines, tu vas reprendre les opérations, donc tu t'arrêtes pas longtemps. Et pendant une mission, un soldat du RDP, donc régiment de dragons parachutistes, va sauter sur une mine. Toi, tu es formé au PSC, c'est les soins de premier secours, en gros.
Oui.
Qui te permet de gérer les blessés sur le terrain. C'est toi qui l'as trouvé, blessé ?
Oui, en fait, nous, on est sur Spinboldak, à ce moment-là, on est rentré de mission, et en fait, on apprend que cette patrouille du 13 doit rentrer, et sur le chemin qui mène, en fait, à l'ouverture du portail de Spinboldak, bon, je ne sais plus où je me situe exactement à ce moment-là, mais on entend une grosse, grosse explosion. Et là, les gardes afghans nous disent qu'il y a un gros problème. Et donc là, je pars tout de suite avec un infirmier, me rendre sur place. Et là, on découvre que le véhicule a explosé sur une mine qui avait été positionnée, certainement pendant la nuit, sur un IED. Donc la roue est complètement arrachée et je retrouve ce mec du 13e RDP par terre, avec la jambe dans un état pas très joli, et surtout au niveau du pied. Donc tout de suite, on le prend en charge, et puis on lui fait les soins qu'il faut, je dirais palliatifs, en attendant de faire venir un hélicoptère qui vienne d'urgence de Kandahar, à peu près une heure de vol, si je dis pas trop de bêtises. Donc le temps qu'un hélicoptère de Kandahar vienne, pour ensuite l'amener sur l'hôpital. Donc on le prend en charge à tous les deux, et puis là se greffe après toutes les personnes, mais... Ouais, c'est un moment aussi difficile de voir quelque part la détresse et la souffrance d'une personne qui rencontre ce genre de situation et cet engin explosif. Ouais.
Tu as eu d'autres cas, je dirais, tu as utilisé justement ton savoir-faire de soins en premier secours plusieurs fois ?
Oui, plein de fois. Parce qu'on est sur Spinball. À chaque fois qu'on rentre sur Spinboldak, je suis très proche du médecin, du major infirmier et des infirmiers qui sont avec nous. Et en fait, moi, pour apporter mon concours et mon soutien, à chaque fois que on nous amène des gens, ou même des enfants, qui ont malheureusement joué avec une mine ou une grenade, ou qui ont marché sur une mine, parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est qu'il y a des enfants qui jouent sur ces chemins et puis qui
sautent sur la mine.
Qui sautent sur la mine et autres. Et un jour, j'ai ce souvenir, c'est un véhicule arrive en trombe à l'intérieur de Spinboldak. L'enfant et un de ses parents est à l'arrière. Donc je me précipite, je vais sur l'enfant. Il me regarde et en afghan me dit Darke. Et Darke, ça veut dire j'ai mal en afghan. Je veux dire, sur lui, il est plus terrorisé à l'idée de voir un militaire français que par la douleur qu'il vive, qu'il doit avoir. Et il a le pied qui est quasiment arraché. Donc là, on l'amène très vite dans notre infirmerie de fortune. Et les médecins...
C'est une ambulance, c'est ça ? Oh, non.
C'est un... Non, c'est un endroit, c'est un local. Ah ouais. C'est un local que l'on a. Et qui ressemble un peu à l'intérieur d'une ambulance, et dans lequel les médecins, le médecin de la marine et le médecin de l'armée de terre, vont tour à tour faire en sorte d'amputer cet enfant, parce que là, il n'y a aucune solution face à ce qui se passe.
Ouais, c'est trop abîmé pour...
Oui, donc je participe aussi à cette amputation où j'ai le pied dans la main jusqu'à ce que je me retrouve avec un pied sans... sans le reste du corps. Donc voilà, on rencontre ce genre de situation où aussi on a des gens qui ont des pieds de mine, donc des adultes aussi qui ont pété sur des mines, des civils, hein, lambda, qui malheureusement subissent ces IED et cette guerre-là, avec des criblés de partout, dans les yeux, enfin, des choses absolument terribles. Donc, je donne mon concours. Voilà, moi, je ne suis pas infirmier, mais j'apporte mon concours systématiquement à ça quand on est sur Spin Boldak. Ouais.
Là, tu te sens utile quand tu fais.
Oui, c'est quelque chose que j'ai en moi. J'étais, depuis que je suis en commando, dès le début, on me donne cette opportunité-là et je me forme. Je viens sur Paris. Je fais beaucoup d'exercices en commun avec les sapeurs-pompiers de Paris, où je passe 15 jours avec eux pour pratiquer, pour faire du massage cardiaque, pour piquer, enfin pour poser des voix. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais.
Sur cette photo, là, c'est un local, on dirait vraiment un véhicule.
Oui, c'est peut-être le véhicule qui
vous a emmené. Ouais. C'est ce jeune homme-là.
Oui, tout à fait.
Malheureusement, qui vous a coupé le pied, etc.
Ouais. Enfin,
qui a sauté sur une mine de...
qu'on remettra aux Américains après. Les Américains arriveront en hélicoptère, on leur remettra pour qu'ils...
Il n'y a pas les parents ?
Non. Non. Bon. Donc, cet enfant part tout seul dans un hélicoptère américain à plus d'une heure à vol d'oiseau. Que dire à la suite ? Malheureusement, je ne sais pas.
Waouh. Fin d'Afghanistan, fin 2005.
Oui.
Tu rentres d'Afghan, soulagé de rentrer quand même ? Où tu t'y es habitué finalement?
Non, on s'y habitue. Hein. On est en famille. On est dans un endroit, quelque part, à haut risque, mais on est content. Hein. On est fiers aussi. Il y a cette fierté d'être là, d'être sur le terrain et de participer à une mission comme jamais on a pu faire jusque-là. Donc, pas forcément soulagé, on est. Mais là, c'est un gros choc psychologique. Donc on a passé six mois et demi ensemble dans un espèce de cocon, dans des paysages qui sont complètement différents de la France, et on arrive en France et là on retrouve la vie normale, le monde dans les magasins, les choses comme ça, des choses qui peuvent paraître très très futiles, qu'il y a du monde sur la route, des choses comme ça. Donc on redécouvre un petit peu la vie civile civilisé.
En 2006, tu t'es envoyé à Djibouti, tu fais une marche de 80 bornes sur 4 jours.
Oui.
À la moitié de la marche, tu te tords la cheville, tu vas prendre de la cortisone, tu vas finir la marche.
Oui, le deuxième jour, bêtement, je me tords la cheville, mais vraiment très très bêtement. On arrivait sur l'endroit où on devait dormir et je me tords la cheville, donc je ne dors pas la nuit. Le lendemain, il y a encore 20 km à faire. Donc, et je me dis, bon, un petit peu de fierté commando, on a toujours tendance à se dire ça, je vais afficher. En gros, je vais serrer les dents, puis ça va le faire. Il fait 45 degrés, on a des sacs à 50 et quelques kilos, on a énormément d'eau. Faire 20 km en plein désert sous 45 degrés, c'est un effort, ça prend une journée, hein, c'est un effort vraiment très particulier. Et puis... Je vais subir pendant 20 km et en fait j'ai une cheville qui est hautement touchée. Et quelques jours après on rentre en France et voilà, j'ai une cheville, j'ai tous les ligaments qui sont arrachés, le tendon, enfin voilà, ça je entre guillemets, l'adrénaline et cette fierté et cette volonté là ont fait que
t'es dur au mal quand même.
Oui, mais je pense que c'est le propre des commandos. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour travailler, on est là pour faire notre métier, avancer. Et puis, il y a toujours ces challenges intergroupes aussi, hein, de montrer qu'on est valeureux, qu'on fait partie d'un groupe, donc on n'a pas envie d'en sortir. Voilà.
Et après, Côte d'Ivoire, 2007, tu pars en opération en pleine élection présidentielle, c'est l'opération Licorne de l'armée française. But de l'opération, sécuriser les hautes têtes du gouvernement de la Côte d'Ivoire et être prêt à les extraire, en cas d'urgence. Il y a des photos de toi, là, on te voit avec un collègue sur une voiture, on te voit avec un enfant aussi. Vous avez dû intervenir sur une extraction, avant de parler de ta sortie de l'armée et de ton PTSD.
Oui, on a... Alors là, on est vraiment en soutien pendant ces élections présidentielles qui ont duré très très longtemps, qui ont été reportées, enfin voilà, des problèmes de certainement de référendum et autres. Il y a eu des moments qui ont été relativement chauds pendant certaines. On s'occupait des cinq têtes, hein, du président Gbagbo, William Soro, Ouattara, donc des grosses têtes. Donc on était là, entre guillemets, pour les extraire en cas de mouvement de la population, parce que là, on est dans un pays qui est, je dirais, instable politiquement. Et on aura l'occasion de faire une extraction d'un ressortissant français, oui, pour. Qu'on viendra évacuer, qui souffrait, qui avait des problèmes de santé, donc on l'évacuera. Mais une mission, je dirais.
Beaucoup plus calme que l'Afghanistan.
Beaucoup plus calme, classique. On monte dans un hélicoptère, on sécurise, on le récupère et on repart à la maison. Donc,
On se sent finalement très tranquille après.
Exactement.
C'est après la Côte d'Ivoire, tu fais un stage commando. Et c'est pendant une visite médicale que tu vas découvrir que tu ne vas pas si bien que ça. Ou tu le laisses en tout cas paraître, ou tu t'en rends peut-être même pas compte d'ailleurs à l'époque. Qu'est-ce que tu as et comment on te le dit que ça va pas ?
En fait, je suis dans ce stage. En commando, on se doit de se requalifier pour monter en niveau. Donc, c'est le stage chef d'équipe commando et Momo est l'instructeur de ce stage. Donc, il est parti du commando pour rejoindre l'instruction. Et c'est lui qui distingue quelque chose qui tourne pas rond en moi face aux situations, le regard dans le vide, des choses comme ça. Il me dit, tu devrais aller voir un psychologue, le SLPA. En fait, jusqu'alors, les psychologues dans l'armée sont considérés comme on appelle ça des dingologues. Donc,
oui, c'est pas bien vu d'aller voir un psy, quoi.
Exactement, ça montre quelque part
faiblesse. Que vous n'aimez pas laisser paraître.
Exactement. Je pense qu'on est dans les débuts de cette prise de conscience.
Ça a changé, ça, maintenant.
Exactement. Et donc, on est dans ces années-là, donc je consulte le médecin en chef, et qui me dit, oui, là, t'es en plein dedans, donc en fait, tu es victime d'un stress post-traumatique. Donc, c'est quelque chose qui survient quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, de ce que j'ai pu vivre, notamment en Afghanistan. Donc, je suis victime de ce stress post-traumatique, et c'est là que je prends conscience, entre guillemets, de comment je suis. Toutes les nuits, je rêve... Toutes les nuits, je rêve de la situation que je citais de tout à l'heure.
Et j'avais... Cette mission qui te revient tout le temps, en fait.
Exactement.
Gros, toutes les nuits, tu rêves de ça.
Et pour moi, c'était quelque chose qui était normal, puisque, je dirais, psychologiquement impactant
de
vivre. Mais ça me paraissait être quelque chose de normal. Et j'avais une lubie en permanence, que ça soit dans le milieu militaire ou le civil, quand je rentrais chez moi, c'était de trouver un endroit géographique qui ressemblait à l'endroit de ce fameux 4 octobre. Et toutes les personnes qui étaient autour de moi, que ce soit ma famille ou autre, je leur dis « Ah, bah, ça ressemble. Tu vois ici, bah, ça ressemble, ça s'est passé comme ça. » Cette volonté de décrire. Donc c'est lui qui a mis le doigt sur cette difficulté que j'avais, et ce médecin m'a accompagné, oui.
Il te dit que t'es en PTSD, donc tu t'es en pause, en gros ? Comment ça se passe ?
Non, pour lui, il n'y a pas de risque majeur à partir du moment où surtout on se déclare. Donc, je finis mon stage, tout se passe bien, je le revois et je me détache. Je me détache de ce moment-là.
Mais tu deviens instructeur en 2008, donc oui. Tu ne repars pas.
Oui.
Tu deviens instructeur pour faire un peu une pause, pour souffler ?
Oui, c'est une pause qui m'a accordée. J'ai la chance d'avoir ce commandant que je salue, que j'avais au téléphone hier, qui a voulu quelque part me prendre sous son aile, qui a accepté de me prendre sous son aile pour aussi faire profiter, entre guillemets, des expériences que j'avais pu vivre, de manière à les retranscrire, les retransmettre aux élèves. Et ça me permettait aussi de faire une pause, moi, dans ce moment qui m'était un petit peu difficile.
Là, on voit une photo de toi pendant le stage. T'es où, là, sur la photo ?
Donc, tout à droite.
Tout à droite. Et oui, avec le béret vert aussi. Voilà, on te voit là. Tu le vis mal ?
J'ai la chance de revenir avec Momo et je découvre une autre personne avec qui je me lierai d'amitié encore jusqu'à aujourd'hui, un nageur de combat qui me fait profiter de toute son expérience et de sa vision à lui et de tout son historique dans la marine. Donc, je suis vraiment dans une bulle là, bienveillante, et de ce fait, je m'investis à fond dans ce que je suis en train de faire. Oui.
Mais l'adrénaline te manque ?
Absolument, absolument. J'ai ce besoin, je suis rentré pour ça, je suis rentré pour être opérationnel. Et donc, je ne vois qu'une seule chose, c'est de faire le stage à Hubert, voilà, commando Hubert. Donc je pars au cours plongeur. Donc je suis.
Il y a des photos là qui apparaissent.
Voilà,
les photos à ce moment-là.
Je pars au cours plongeur, faire cette formation plongeur dans un unique but, c'est de partir chez les nageurs de combat. Je réussis les évaluations qui sont pas forcément évidentes, qui demandent au-delà de la partie physique, mais techniquement d'accepter aussi la difficulté de la plongée. Et puis, je ferai deux mois sur les six au stage. Malheureusement, ça s'arrêtera en raison de ma cheville qui est malade. Je prends toujours cette cortisone quasiment quotidiennement pour tenir. Merde.
Pour une marche, juste pour...
Tous les matins, en fait, on se devait de courir. Moi, mes plongées se passaient très, très bien. Les plongées sont très longues, elles durent plusieurs heures. Ce n'est pas de la plongée plaisir, hein. C'est ce qu'on appelle de la navigation sous l'eau. On est avec un appareil, un circuit fermé, avec de l'oxygène pur à 100%. Enfin, voilà.
Tu peux tenir combien de temps sous l'eau sans remonter ?
C'est aux alentours de 5 heures, à peu près.
Oui, aux alentours, on ne donne pas des chiffres trop précis, mais...
Ouais.
Ok, c'est plusieurs heures, vraiment.
Oui, tout à fait.
5 heures, enfin oui, il y a dire.
Le but étant de se déplacer.
C'est une journée de travail sous l'eau, quoi.
Oui, tout à fait, oui.
Tu dois être fripé quand tu ressors, non ?
Ah oui, quand on ressort, oui, on a une jolie tête, oui.
Déjà un bain au bout d'une demi-heure. Ouais. Et tu dois être surtout gelé, non ? Quand tu es en eau profonde.
Alors, on n'est pas en eau profonde, en fait. La typicité, en fait, quand on plonge en oxygène pur, et avec cet appareil, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de 6 mètres. Donc on est à 6 mètres, on reste à 6 mètres de manière à...
C'est déjà profond.
Oui, comparativement à une plongée plaisir ou loisir, c'est différent. Oui.
Et tu continues d'accompagner les plongeurs jusqu'en 2012.
Oui, en fait, donc face à cet échec de ce stage, en raison de ma cheville, et je repars à Lorient, et donc là je m'occupe de la soute plongée. Je suis en charge avec une autre personne de certifier les plongeurs, de garder leur niveau de qualification.
Okay.
On se doit chaque année d'effectuer tant de plongées pour garder ses qualifications. Donc je fais ce travail-là. Ouais.
Et donc tu es réformé, c'est comme ça qu'on dit. C'est dur de dire au revoir à son rêve, entre guillemets, de ne pas être Uber, etc., de ne pas enchaîner.
Oui, parce que je m'étais toujours dit. C'est soit commando, soit rien. Donc, soit j'accédais à être commando et opérationnel.
Tu l'as été.
Et je l'ai été, mais il fallait que j'y reste plus longuement. J'y serais toujours et encore aujourd'hui, je pense, si toutefois ma santé me l'avait permis. Et donc c'était impossible pour moi. Naturellement, on m'a proposé plein de postes, des reconversions et autres. Mais pour moi, être dans l'armée... Dans la marine, c'était pour ce métier-là. C'était certainement pas pour me retrouver derrière un bureau, chose que j'effectue aujourd'hui, mais en tout cas, je ne voyais pas j'avais pas cette vision-là. Donc, voilà. Je suis réformé et vient l'heure du départ, ouais. Vient l'heure du départ et...
Qui se passe pas très bien ?
Oui, parce que en fait, là, je replonge, en fait. Pardon.
Ah. Alors on va bien dormir après une émission comme ça. Parce que c'est ta première interview, en plus tu racontes jamais.
Non, jamais.
Tu l'as jamais raconté, cette anecdote ?
Non, puis là j'ai mon frère qui est là et j'ai jamais raconté ça.
Ah, c'est vrai ?
La difficulté, je savais que tel jour, telle heure, c'était fini et je me retrouve dans cette soute de plongée. J'ai la personne qui est avec moi qui a une soirée, enfin, qui a quelque chose ou qui rentre chez lui. Et quelque part, je replonge dans mes difficultés de quelques années auparavant avec ce stress post-traumatique. Donc je suis complètement désarmé et démuni. Et, C'est pas arrivé à le sortir.
Ah, mais c'est normal, c'est super dur. Attends, tu rigoles, t'es déjà très courageux.
Non, mais je vais me concentrer.
Parce qu'en plus, toi, tu laisses pas trop passer d'émotions. Enfin, tu arrives à te retenir et tout.
Donc, ce fameux jour, je sais quel jour, quelle heure je dois partir. Et complètement démuni, j'ai une idée malheureuse qui me traverse l'esprit. Donc, je me prépare. Un étage et je prépare une corde et voilà. Et j'ai pas le courage ou d'aller jusqu'au bout et quelque part heureusement. Alors je sais pas si c'est une notion de courage d'ailleurs. J'encourage personne, certainement pas. Mais j'ai cette image de ma famille et surtout de mon frère qui a 10 ans de moins. Qui est là et que. Je dois accompagner encore un peu, quand même. Je dois accompagner. Donc, voilà, je m'enlève cette idée-là. Naturellement, je m'étais alcoolisé pour accepter le fait de faire quelque chose comme ça. Mais voilà, cette image-là me fait que j'arrête tout.
T'as pensé à ton frère, en gros, et c'est ça qui t'a rappelé à... Wow. Et il ne le savait pas ?
Je crois pas.
Et au dernier moment, tu t'arrêtes ?
Oui. Et cette idée-là me... Voilà, ce traverse qui m'a traversé, plus que traversé l'esprit, j'arrête complètement cette tentative-là.
Petite pause.
Merci. On est très pudique. Hein.
Ah, c'est vrai ?
Ah oui, extrêmement. Donc, c'est pas normal, là, ce qui s'est passé, mais bon, c'est tant mieux.
Comment tu t'es remonté après ça ?
En fait, mon pseudo-destin est un peu tracé en sortie de l'armée, c'est que je dois rejoindre un ami que j'ai rencontré en tant qu'instructeur, qui est parti quelques années plus tôt et qui fait de la sécurité privée à l'étranger. Donc, en fait, je pars pour cet horizon-là et finalement je suis en Angleterre et j'ai pour performer mon anglais et finalement j'ai des amis de la famille qui me proposent un job à Dubaï voilà dans la logistique et bon, finalement ça se fera pas parce qu'on me propose quelque chose en Iran et je vais sur une île en Iran et je vois j'y vois un risque pour moi parce que maintenant je suis civil, j'ai plus mon groupe avec moi et je pense et je sens que mon expérience pourrait me mettre en difficulté. Mon expérience militaire dans les forces spéciales.
Que tu peux intéresser des gens quoi.
Exactement. Lorsque j'arrive sur cette île, j'ai un interrogatoire, je suis avec un Américain, j'ai un interrogatoire qui me plaît pas trop et je sens quelque chose d'assez...
Donc tu repars ?
Donc je repars et puis une connaissance de la famille me donne ma chance en fait dans le milieu du vin. Ils recherchent un responsable logistique. Ma maman à l'époque est en voiture avec et il dit ouais, j'ai mon fils qui rentre de Dubaï et il me donne ma chance. Il me dit il dit à ma mère qu'il vienne lundi tel jour telle heure à tel endroit et l'aventure a commencé comme ça au niveau du monde du vin. Donc je découvre le monde du vin, je ne sais même pas ce que c'est qu'une bouteille d'un vin blanc, d'un vin rouge, je ne suis pas forcément consommateur non plus, mis à part des occasions particulières, mais donc je découvre ce milieu-là et voilà, j'évolue à l'intérieur.
– T'as deux enfants après ?–
Oui, j'ai deux enfants, une grande de 7 ans et un petit de 3 ans.
– Waouh, ouais. Finalement la vie ça vaut le coup d'être vécu.
Absolument.
Même si on n'est pas commando dans un...
Oui, tout à fait.
On se rend compte qu'après avoir eu des enfants, ça.
Exactement, on trouve d'autres plaisirs aussi. Voilà. Et puis on garde beaucoup de souvenirs et on garde le lien aussi avec ses amis qui sont encore actifs. Et... Ouais.
Ton fils a 3 ans, ta fille a 7.
Oui.
Ils te disent qu'ils veulent être militaires plus tard.
Le petit commence depuis à peu près une semaine. Ça fait à peu près une semaine. J'ai envoyé des photos, donc et du coup, il a découvert Il a 3 ans, il commence à être curieux, à regarder derrière les ordinateurs. Et il a découvert ce monde-là, ce milieu-là. Et donc, oui, ça y est, il veut être militaire officiellement, 3 ans.
T'inquiète pas, il peut encore changer.
Ouais.
En général, c'est dans une bonne dizaine d'années avant qu'il prenne vraiment une décision, voire un bon 15 ans d'ailleurs,
ouais,
en vrai. Et donc là, tu travailles dans le vin et t'as créé quelque chose avec les Bleuets de France. Tu le disais en partenariat tout à l'heure. On en a parlé un peu en début d'émission. Je vous mets un lien pour ceux qui veulent en commander d'ailleurs pour aider les Bleuets de France, pour t'aider toi avec tout ton récit et toute cette histoire folle que tu nous as gentiment racontée pour la première fois. Je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille ? Alors, tu en as ramené deux parce que tu es venu en train.
Oui.
Tu en as ramené quelques-unes pour l'équipe.
Absolument.
Trop sympa. Merci beaucoup pour eux. Ce sera toujours les mêmes qui vont les boire, mais on remercie pour toute l'équipe. On embrasse le réalisateur à ce moment-là. Cuvée 1944, si tu veux expliquer. Donc, il y en a deux, là. Tu as ramené un rosé et un rouge, c'est ça ?
Oui, absolument. Mais c'est une cuvée qu'on a créée. Le développement s'est fait il y a un petit peu plus d'un an, en hommage aux hommes ayant débarqué le 6 juin. Le 6 juin prochain, ça fera 80 ans que ces valeureux hommes ont débarqué. Et j'y voyais un lien, évidemment, et du sens avec mon histoire, naturellement, et aussi la recherche de ce partenariat. Donc c'est quelque chose qu'on a complètement créé avec le Bleuet de France, qui vient en aide aux anciens combattants, aux victimes d'actes terroristes, aux pupilles de la nation. Donc on a créé ce produit pour quelque part inonder les plages le 6 juin 44 prochain, et de manière à ce qu'il se retrouve un petit peu partout, que ce soit dans les centres commerciaux ou sur les restaurants, que ce soit en Normandie, en Bretagne ou partout en France. Donc voilà, c'est une belle rencontre avec Pierre-Emmanuel de la Forcade, que je salue, le directeur du Bleuet, qui nous a fait confiance et avec qui on a créé ce joli produit où 50 centimes seront reversés pour chacune des bouteilles vendues.
Voilà. 80e anniversaire cette année, voilà, du 6 juin 44, avec la photo et tout. Et quitte à se mettre une petite bouteille le soir à table, à ramener, autant que ça serve et que ça aide tout ça et tout ce dont on vient de parler et tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, leur santé pour la France, tous les militaires qui se sont donnés avec le Bleuet, donc on les embrasse très fort aussi. Je mets le lien aussi des Bleuets de France, ça leur fera plaisir en dessous si vous voulez aller voir leur site, etc., pour soutenir. Et je vous mets le lien cliquable direct si vous voulez. C'est à consommer avec modération, on est obligé de le dire en France, c'est important aussi d'ailleurs, toujours intelligent de le dire. Et voilà, si vous aimez une bonne bouteille de vin à table, vin rouge, vin rosé et vin blanc.
Et vin blanc, non. On met un prochain développement. Mais avec légende, peut-être.
La cuvée légende 44. On va faire un mix des deux. Merci beaucoup, Romain. Ça n'a pas été trop. Si, ça a été dur hein, comme interview. Parce que.
Ouais, c'est pas évident. Comme
c'est
exercice.
Pas évident. Mais tu as été très bon. Et tu as été très sincère et très juste et tout. Voilà. Et on remercie très fort ton frère d'être venu et de t'avoir parlé de l'émission. Parce que,
bien sûr, c'est grâce à lui.
C'est grâce à lui qu'il nous regarde régulièrement, voir toutes les émissions, me disait de Béziers. Donc il est reparti en régie là, après être venu te faire un bisou tout à l'heure et tout. Mais merci à lui de nous avoir mis en relation. Et voilà, j'espère qu'il y aura plein de bouteilles de vin qui seront commandées pour les Bleuets, pour toi aussi. Et bravo pour ta reconversion.
Merci.
T'es heureux aujourd'hui ?
Absolument, absolument. J'ai la chance d'avoir une famille, une femme et deux enfants qui sont là à mes côtés et je suis là proche d'eux. Donc absolument.
Ça remet aussi le sens des priorités.
Exactement.
Les enfants.
Exactement. C'est le sens, hein, c'est le sens de la vie. Et tant qu'on n'en a pas, on ne peut pas forcément le concevoir. Mais c'est vrai que l'arrivée d'un enfant change un homme. Et moi, m'a littéralement changé. Oui.
Ça donne un axe sur la boussole, un azimut.
Oui, tout à fait.
Où on va, c'est vrai. Hein.
Tout à fait. Oui, j'ai souvent utilisé la boussole et cet azimut-là. Aujourd'hui, on sait où on veut amener nos enfants ou où on ne veut pas les amener. Donc, oui, c'est un sens.
Merci beaucoup d'être passé.
Merci.
D'être venu jusqu'à nous en train de Bordeaux. Merci à vous tous, les amis, d'avoir regardé cette émission. Riche en émotions. Il y a encore une boîte de mouchoirs derrière, à côté de Théo qui filme. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Benjo, c'est la caméra mobile, et à Thibaut derrière, et Théo qui filme en caméra fixe, à Jules derrière en régie qui a réalisé. Gros bisous à vous tous. Merci à tous ceux qui ont préparé l'émission, Sébastien, Louis et Julie qui ont écrit. À vous tous d'avoir regardé tous les mercredis, jeudi et vendredi. Tous les mercredis, vendredis, on la gardera, c'est pas grave. Tous les mercredis, vendredis et dimanche, on vous poste 3 émissions sur la chaîne. Merci de vous abonner vraiment en masse, ça nous aide beaucoup, beaucoup à être de plus en plus gros et à pouvoir faire de plus en plus de jolies émissions et de reportages comme on rêvait de faire et comme on a toujours envie de faire de plus en plus. Gros bisous à tous et de toute façon, à la prochaine émission. Ciao tout le monde.
Légende Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.